Bon, merci Jacques et bravo, parce que faire vivre quelque chose d'aussi délicat en si peu de temps, de manière aussi intense, c'est quand même rare. Mais c'est aussi, je pense, le témoignage d'une expérience personnelle très profonde, enfin, d'une expérience clinique. D'une expérience clinique, oui, mais qui pose la question de la sexualité du psychiatre. Hein, vous rigolez, mais on y est, hein. Oui. Alors, on a connu une époque dont on n'osera pas parler, hein, Mireille, qui était quand même plus tranquille, plus coquine peut-être aussi, plus facile. Et puis, on a connu bon, la libération qu'on a dit tout à l'heure. On a connu le versant que tu as alerté sur cette dimension. Alors, on rejoint les préoccupations matinales d'ordre religieux, si j'ai bien compris, ou qui avaient trait à quelque chose en rapport avec la réforme. On a croisé également le grand risque qui est de tomber. Et vous savez combien pour la phénologie psychiatrique, la chute, on en reparlera demain matin, je pense très clairement, le tomber, la chute, a une signification existentielle très très importante. D'ailleurs, l'important, c'est de ne pas se faire mal. Parce que tomber amoureux, ça peut cogner hein, quand même. Hein. On tombe. Hein. Tomber enceinte, bon, on l'a dit, c'est très curieux parce que dans certains cas, on est très heureuse de tomber enceinte. Enfin! Hein, surtout quand on est passé par les perfusions, les trucs, la pompe électrique qui, à 3 heures du matin, se met à siffler parce qu'il faut changer la pile.
Sauf à part la pile.
Non, mais je parlais des problématiques hein, de fécondation assistée. Enfin bon. Donc, tomber, c'est une image très forte et que le langage courant, je crois, a privilégié pour évoquer quelque chose qui est une sorte de changement, de mutation totale dans notre existence hein, et dans l'existence de tout un chacun. La recommandation que, quand on est médecin, on ne fait pas l'amour avec les malades, je crois qu'il faut la garder quand même très très fort. Hein, oui. Et même si elles sont d'accord, ou même si c'est elle ou il qui le propose, c'est une recommandation magistrale. Mais en tout cas, merci encore d'avoir évoqué ces péchés, alors que j'imaginais peut-être pas si clairement que ça. Et vous voyez, même à mon âge, pourtant, il faut qu'on se rebaigne dans une certaine lecture hein, des problèmes de la délicatesse, de l'intimité. Merci encore. Alors, il y a peut-être des questions quand même. Là, je ne sais pas comment on organise les choses. Sandrine.
Alors, moi, je pense effectivement, hein, au niveau de la salle, les interventions ont été très intéressantes, mais c'est vrai, on est un petit peu pris par le temps. Donc, ce serait quand même, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, même si on est dans un temps un petit peu court. On a normalement deux micros qui circulent, qui sont je ne sais pas où. Bon, alors comme il n'y a pas de questions, moi je voudrais juste, pendant que vous réfléchissez à vos questions, voir un petit peu, parce que vous parliez effectivement, docteur Weinberg, de la différence entre la sexualité féminine et la sexualité masculine, et moi je me posais un petit peu la question au niveau de la population consultante en sexologie, au niveau de la proportion homme-femme et des plaintes, enfin en tout cas des motifs de consultation, s'il y avait...
Eh bien ça dépend aussi de l'époque. C'est vrai qu'il y a pas mal d'années, les femmes consultaient beaucoup en sexologie, puis petit à petit, avec l'apparition de médicaments de l'efficacité, faute d'efficience parfois, on a vu de plus en plus d'hommes consulter, et à l'heure actuelle, on peut dire qu'il y a facilement 2 ou 3 hommes pour une femme. La grande différence qu'il y a dans les consultations de sexologie, entre les hommes et les femmes, c'est qu'effectivement, les hommes viennent consulter pour un quelque chose qui ne marche pas, une érection, une éjaculation. Et les femmes, elles viennent le plus souvent consulter, vous le voyez également au niveau des ados, hein, si on regarde, c'est très intéressant que vous alliez un petit peu sur les forums de sexualité que vous trouvez sur Internet, si vous regardez un petit peu les discussions, dans les forums, et vous verrez la différence qu'il y a entre les hommes et les femmes, elle est très nette, c'est que les femmes parlent toujours de relations. les ados demandent, posent comme question comment je peux faire, les femmes, les petites jeunes filles, c'est comment je peux faire pour me faire aimer, comment je peux faire pour me faire remarquer, comment je peux faire pour le garder. Et les garçons demandent comment je peux faire pour avoir une queue plus grande, comment je peux faire pour éjaculer moins vite, j'ai mon sperme qui me paraît un petit peu jaunâtre, comment je peux faire pour l'éclaircir. La question qui m'avait le plus intéressée, c'était si je tire un trait entre le nez et l'anus d'une femme, par à quel endroit je trouve le trou. Et donc, vous voyez que le relationnel est un petit peu différent, on va dire, entre les hommes et les femmes. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve en général dans les consultations. Alors, je fais une caricature, mais à peine, hein, parce que ces choses-là, c'est pas de l'interprétation, c'est le matériel avec lequel on travaille. Et toute la difficulté, ça va être effectivement de faire entrer un petit peu de relationnel dans la sexualité masculine, c'est-à-dire de leur faire entendre qu'il y a quelqu'un en face qui pense différemment. C'est pourquoi, si vous voulez, la grande trouvaille de Master et Johnson, ça a été de passer à la dimension du couple. Quand vous avez une dyade de couple en face de vous, c'est un imaginaire différent qui est en face, avec lequel vous allez travailler, et vous allez faire entendre l'interprétation de ce que dit l'un et de ce que dit l'autre, jusqu'à ce que petit à petit ça se maille, et que ça permette de faire entendre à l'homme que ce qu'il dit n'est pas du tout ce qu'entend l'autre, et vice-versa, et qu'il va se créer quelque chose qui est une possibilité de rencontre sur un deuxième terrain, et sur lequel vous allez pouvoir mettre petit à petit, effectivement, du partage de quelque chose qui est de l'ordre de la sexualité, qui se reconstruit sur un autre concept qui va être celui de ce couple-là, qui est là maintenant, et pas celui de ce qui s'est constitué hier, mais celui qui est là aujourd'hui, et qui vient vous demander, à travers une difficulté sexuelle, une rencontre qui est devenue impossible. Et qui ne sait pas qu'il parle de rencontres impossibles et qu'il ne parle que d'organes ou de relations, on va dire, style Blanche-Neige et les sept nains. Hein, ça, c'est les femmes, les Narta, etc. Je ne parle pas des difficultés, on va dire, très médicalisées, dans lesquelles, effectivement, là, c'est un autre registre dans lequel il y a une difficulté, dans lequel il y a un corps lésionné, avec un diabète, avec des maladies cardiovasculaires, dans lequel il faut tenir compte de cette rencontre qui est devenue difficile, là, à cause de la maladie. Mais vous voyez, toutes ces choses-là, c'est du quotidien, et c'est quelque chose qui renvoie effectivement à la différence des genres, puisque c'est comme ça qu'on parle aujourd'hui.
Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ?
Je pourrais simplement dire qu'on a assez régulièrement, en tant qu'homme, des demandes de consultantes qui demandent une sexologue de rencontrer une femme. Il y a une espèce d'a priori de confiance, de compréhension meilleure. De femme à femme, on a la même chose avec les demandes d'homosexuels, par exemple. Mais, bon, on peut tout à fait écarter cette demande en rassurant. Il fut un temps où la gynécologie était exercée pratiquement que par des hommes. Il y a quelque chose d'extrêmement dérangeant que je n'évoque que rarement, parce que c'est vraiment très moche. C'est qu'on fond être sexologue femme fait courir un risque que j'ai annoncé, moi, à mes étudiantes. Beaucoup ne l'ont pas bien accepté, mais enfin, on va le dire ici hors antenne, ce qui n'est pas vrai. Voyons, lorsqu'on consulte un homme sur des questions de jouissance, sur des questions de sexualité, il n'y a pas d'hypothèque sur sa possibilité de connaître l'orgasme. Lorsqu'on va consulter une femme sexologue, est-ce qu'elle jouit ? Est-ce qu'elle sait de quoi elle parle ? Et là, il y a un double discours qui n'est évoqué nulle part, parce que c'est trop dérangeant, je vous le répète, c'est trop dur quoi, à entendre. C'est qu'on ne peut pas d'un côté dire qu'il y a un certain nombre de femmes qui ne jouissent pas et pour lesquelles c'est très compliqué, et de l'autre dire que toutes les femmes sexologues sont dédouanées. Alors, bon, c'est tout, je vous le livre comme ça, comme quelque chose, un petit paquet, un petit peu façon grève des éboueurs à Marseille, vous voyez, des trucs un peu comme ça. Mais enfin, c'est une réalité, parce que bon, d'autres femmes me l'ont dit, quoi. C'est compliqué. Être sexologue, vraiment, prendre en charge ces questions de jouissance, d'intimité, de relation, c'est quand même beaucoup plus difficile qu'on pourrait l'imaginer. C'est pas du tout factice comme représentation.
Alors, quand j'ai voulu faire de la sexologie, j'avais un maître à penser, chef de service de psychiatrie, psychiatre très humaniste, qui s'appelait le professeur Sutter, et qui était mon maître, et qui permettait à cette époque-là que quand on était chef de clinique ou interne, on pouvait parler tous les langages qui nous convenaient. Et il y avait de la psychanalyse, de la thérapie comportementale, de la relaxation, des thérapies de communication. Et le premier psychiatre qui, en France, avait traduit les bouquins de Palo Alto, qui était notre ami Blumen, qui a mis en place les thérapies de communication à Marseille et ailleurs. Il y avait... Il y avait Dufour qui était la tête de poupe de la psychopharmacologie, puisque n'oubliez pas, c'était l'époque de découverte des neuroleptiques et des premières études cliniques sur les patients avec l'allopéridol, la chlorpromazine et les nouveaux neuroleptiques n'étaient pas encore là. Donc, se mettre à penser, quand j'ai vu qu'effectivement on venait me parler de difficultés sexuelles et que j'étais interloquée et que je ne savais pas répondre, et que j'ai commencé donc à entendre qu'il y avait ces cours de sexologie à Genève, je lui ai dit « Monsieur, je voudrais faire de la sexologie ». Alors il m'a regardé atterré, et il m'a dit « Mais Mireille, vous êtes une femme ». Le même, comme j'avais divorcé, et que j'étais donc une femme divorcée, ça ne se faisait pas, surtout si on était dans une clinique psychiatrique bien pensante, et que je lui ai dit après je vais me marier, il m'a dit ah vous allez régulariser, c'est bien Mireille. Mais ceci pour vous dire, par rapport à ce que dit Jacques, être un homme ou une femme, c'est vrai que ça va dépendre un petit peu des contre-attitudes que l'on peut avoir vis-à-vis de la personne qui serait supposée savoir ou ne pas savoir quelque chose de l'ordre de sa sexualité de l'autre. Est-ce que la sexualité de l'autre est un savoir si clair qu'il faut être du genre adapté pour pouvoir l'entendre et pouvoir y répondre ? Moi, je rappellerai que c'est les femmes qui apprennent aux hommes à parler, parce que les femmes sont porteuses du langage. Et que donc c'est elles qui ont mis les mots de l'enfant qui a appris à petit à nonner et à épeler que ce que ça c'était ça et que c'était comme ça. Et que donc quelque part elles savent tout sur le sexe. Mais ceci c'est une boutade.
Non, non.
Mais je crois qu'elles savent, qu'elles permettent de savoir en tout cas. Et quand il y a des personnes qui demandent, ça se fait de moins en moins, mais à une époque, on demandait, quand quelqu'un disait « je veux un sexologue », il demandait à la secrétaire « c'est un homme ou une femme ?» Et la secrétaire disait « c'est une femme ». Alors il y avait ceux qui répondaient « ah !» Parce qu'ils allaient pouvoir parler relations, ils allaient pouvoir parler de leurs souffrances, ils allaient pouvoir parler de ce qui ne marchait pas, mais en termes émotionnels, en termes de l'intérieur de soi, de l'intime. Si c'était des hommes et qu'on leur disait c'est un homme, eh bien ils ne pouvaient parler que s'il s'agissait de parler d'efficacité à efficacité, et encore quelque part l'autre pouvait en avoir plus que lui, il n'en arrivait pas à trop lui dire que soit on n'en avait pas, qu'il ne marchait pas. Et ce n'était pas si facile que ça. Quant aux femmes, elles n'allaient pas tellement parler non plus aux hommes, parce qu'elles pensaient qu'ils n'allaient pas entendre, elles n'avaient pas toujours tort, ce qu'elles avaient à dire, qui serait effectivement de l'ordre de l'impossibilité de la rencontre. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Et je crois que ce qui est important, c'est qu'effectivement, le sexe du thérapeute ne compte pas. Il ne doit pas compter. Pour l'autre, il compte, mais il n'est qu'un indicateur de ce que l'autre a comme peur. Mais le thérapeute ne doit pas avoir de sexe, sinon il n'a pas fait ce fameux travail sur soi qu'on réclamait obligatoirement avant dans la formation de psychiatrie. On n'était pas psychiatre sans avoir fait un bout de psychanalyse. Alors je ne dis pas que la psychanalyse résout tout, mais elle permet quand même de délier un petit peu ce qui serait quelque chose de soi qu'on projetterait sur l'autre et qui empêcherait l'autre d'exister dans le discours qu'il vient vous porter en clinique. Là, j'aimerais bien entendre Dominique.
sur l'autre. L'autre comme soi-même, c'est le titre d'une œuvre centrale de Paul Ricoeur, sur le fait que l'autre de soi, c'est l'autre que soi qui le donne. Et donc là, je sais pas, on verra peut-être demain matin le développé qu'on peut donner à ça. Mais je reviens sur ce que tu disais sur presque une idéalisation de la position féminine maternelle et de distribution au fond de la structure narrative à l'enfant. Moi, je crois que l'être humain est inachevé profondément et qu'il est incomplet et qu'il y a une sorte de coopération fonctionnelle, neurofonctionnelle peut-être, entre la femelleté et la malté, qui vont se donner dans le féminin, le masculin, qui sont déjà des élaborations comportementales, alors le tempérament, la culture, la personnalité, les acquis, et qui vont alors élaborer le destin d'un homme et d'une femme. Et donc il y a trois niveaux que d'ailleurs la demande transsexuelle nous demande d'intégrer enfin, de manière plus délicate, mais qui reprennent ce que tu dis, enfin qui valident ce que tu disais tout à l'heure. Il y a presque une spécification hémisphérique de cette problématique particulière où tout ce qui serait du domaine du discours, du langage, de la narration, de l'histoire, ça serait quelque chose quand même d'extrêmement féminin. Voilà. Par contre, pour retrouver ta bagnole au parking, alors là, c'est une autre histoire. Voilà. Et ça, c'est du visuo-spatial et ça, c'est masculin. Voilà. Ça, c'est des androgènes, c'est du masculin. Et en fait, ça réplique peut-être nos origines, on en parlait, hein, et quelque chose d'il y a très très longtemps où, pendant que l'homme est à la chasse, est parti très loin récupérer hein, les bestiaux pour manger, et lui, il faut qu'il se repère hein, pour pouvoir d'abord essayer de les trouver, ensuite revenir à la grotte, eh bien, la maman, elle est là à piler le mil et à raconter, à expliquer aux enfants et pourquoi et où il est papa et pourquoi il est parti, etc. Et donc, on va expliquer ce qui s'est passé, pourquoi il est parti, qu'il va revenir bientôt, que tout va bien se passer, etc. En quoi ça consiste. Et donc, il y a quelque chose de cet ordre qui est une coopération nécessaire où, alors, on revient à la limitation des péchés les plus importants qu'on a vus tout à l'heure. La chasse se passera bien, les petits seront bien contents et on fera comme avec Astérix, un banquet final qui va sans doute d'ailleurs conclure.
Effectivement, c'est. Alors, je suis désolée s'il y avait des questions. En fait, on va être un petit peu, à part s'il y a vraiment une question courte, quelqu'un qui a envie de faire une remarque. Il y a quelqu'un au milieu de la salle, s'il vous plaît.
Merci. Je vous remercie beaucoup pour la qualité de vos exposés. J'avais une interrogation sur... j'ai pas pu m'empêcher de noter une note peut-être plus ou moins implicite, selon l'exposé, un peu morose, un peu triste sur ce qu'allait devenir notre pratique et ce qu'on allait en perdre. Et je voulais poser la question peut-être un peu naïvement de ce qu'on allait perdre et de ce qu'on allait devoir enterrer, comme vous le disiez, pour conclure votre exposé.
Ah non, il ne faut pas que vous soyez... non, il n'y a pas de morosité dans l'air. Au contraire, le risque eût été de considérer la sexologie comme une discipline qui vous est étrangère et au fond, dont vous pouvez regretter de ne pas avoir les bases pour exercer. Je pense que nous en parlions d'ailleurs ensemble. Il y a non seulement la nécessité d'accompagner et non pas de guérir, ce qui vous met quand même plus ou moins à l'aise, mais surtout d'orienter le diagnostic avec les éléments que j'ai développés, qui ne sont pas essentiels, je veux dire, ils ne sont pas exhaustifs. D'autres paramètres, évidemment, interviennent. C'est un état d'esprit de vouloir globaliser ces questions d'intimité dans vraiment un contexte vécu, la vie. Vous êtes quand même une spécialité qu'il faut, non pas restaurer, je ne peux pas me le permettre, bien que j'ai fait des études proches des vôtres, mais vous êtes une spécialité charnière de la médecine, nom d'un chien. Comment en douter ? Ça suffit maintenant, cette médecine d'instrument. Vous ne devez pas entrer là-dedans. Prenez vos responsabilités, je l'ai dit au début. Vous êtes humaniste. Et humaniste, ça veut dire que vous devez vous cultiver, vous devez prendre le pouvoir sur la vie des gens, avoir un concept global de bonheur. Bon, ça c'est une première chose. Et ensuite, il y a d'autres manières d'exercer la psychiatrie, nous le parlions, d'être expert près des tribunaux, de s'intéresser à la criminologie, de s'intéresser aux questions de genre, à des questions modernes. Non, votre métier n'est pas condamné à être morose. Mais il faut peut-être sortir, nous sommes des intervenants un peu dérangeants, peut-être, il faut sortir du cadre dans lequel on vous a peut-être jusqu'à présent programmé, qui est celui d'être prescripteur. Ne soyez pas seulement prescripteur. Soyez effectivement à l'écoute de ces patients et à l'écoute d'une réflexion sur leur bonheur.
Moi, je pense que ce qui est important aussi, c'est d'abord d'être conscient que tout ce qui est de l'ordre de la connaissance va et vient et qu'on perd toujours pour retrouver après. Donc, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est que ceux qui retrouvent ce que d'autres ont dit pensent qu'ils sont des novateurs. Parce que si vous regardez la façon de publier à l'heure actuelle, qui me paraît extrêmement nocive, c'est que vous devez sortir dans la publication que les travaux des 5 dernières années, la plupart du temps, puisque les autres sont supposés ne plus être valides, puisque dépassés. Ça s'applique surtout à une notion qui sera en rapport avec l'efficacité des médicaments, qui peut être non pas dépassée, mais à revalider à la lumière plus actualisée de nouvelles connaissances. Mais ça ne s'applique absolument pas à tout ce qui a été écrit avant. Et ça, vous ne le trouvez pas dans Medline. Dans Medline, c'est le meilleur et le pire des instruments, parce que vous éliminez la majorité des acquis, des écrits, des livres, de tout ce que vous trouvez, des publications et qui partent des écrits cliniques et qui font que ça fait partie des choses qui devraient être... C'est la clinique qui vous forme, ce n'est pas les études sur les médicaments qui sont des études qui sont applicables à des échantillons très représentatifs de ce qui permet de doser et d'évaluer effectivement l'efficacité d'un médicament. On n'est pas à la solde de l'industrie pharmaceutique. On ne doit pas être que des instruments de l'industrie pharmaceutique pour faire de la psychiatrie. Ça fait partie de la psychiatrie, mais on est en train de perdre la psychiatrie. Moi, c'est ce que je pense profondément.
Bon, moi, je pense...
Je tempérerai, je dirais que la psychiatrie, c'est vous, maintenant.
Voilà.
Et donc, on est là pour... dans les quelques années qui nous restent d'enseignement, pour vous aider à progresser. On est là pour aider des gens comme Audrey Gorin à vous proposer des guidelines qui sont nouveaux, qui ne sont plus les éléments de l'époque avant la libération sexuelle, où il était question que de frigidité, d'éjaculation prématurée. Non, c'est changé, c'est plus ça maintenant. C'est autre chose, c'est beaucoup plus compliqué, vous l'avez vu. Et si vous arrivez à intégrer tout doucement les 3 dimensions qu'elle vous a exposées avec les différentes directions qu'elle vous a données, ben chapeau.
Alors, on va juste clôturer cette demi-journée. D'abord, en remerciant les intervenants, parce que, après, je ne sais pas, vu de la salle, ce que ça a donné, mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant.